Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Question de parler 9e art. Et un 9e art qui sera, comme c'est notre habitude, abordé de différentes façons et de différentes perspectives au fil de l'émission. Alors, notamment en deuxième moitié, eh bien, ce sera Stéphane Gravel qui sera avec nous. Question de nous partager ses lectures du mois, des lectures qui, entre autres, ont démarré avec l'album La Bête, la relecture du Marsupilami de Franck P. et Zidrou, un album très attendu, qu'on avait eu l'occasion de voir d'ailleurs en prépublication dans le magazine Spirou, à tout le moins pour les abonnés, en très petit format, mais qui a vraiment éclaté les cases avec une publication grand format. Alors, on en parle avec lui et on parle de cet album pour voir un peu son circuit de lecture de décembre. En première moitié, on va aller vers d'autres types de circuits, peut-être plutôt les circuits de déplacement, la route des eaux de notre Québec à travers l'album Traces de Mocassin, un album qui s'intéresse aux Premières Nations, qui s'intéresse à des figures méconnues ou oubliées de notre histoire. Donc, l'auteur Louis Rémillard, qui est replongé, entre autres, dans les relations des Jésuites, qui a été chercher différents récits de figures autochtones intéressantes et qui les a transposées, justement, vers la sphère de la bande dessinée. Donc, 6 courts récits qui s'inscrivent en continuité avec le retour de l'Iroquois qui nous avait offert il y a déjà quelques temps. Alors, Traces de Mocassin, un album qui est qui était attendu, et un album qui déjà a reçu quelques mises en nomination, notamment du côté du prix des libraires. Alors, j'avais très hâte de lire et surtout, j'avais très hâte d'en jaser avec son auteur. Donc, Louis Rémillard est avec nous dans quelques instants, ici à La Vie en BD. Alors, dans le contexte de La Vie en BD, on porte maintenant un regard sur un album qui s'appelle Traces de Mocassin. C'est disponible chez Moelle Graphique, c'est de Louis Rémillard. Et ça s'inscrit dans la suite du retour de l'Iroquois. Son auteur est avec nous. Louis Rémillard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je le mentionnais, dans le fond, Traces de Mocassin se place donc à la suite du retour de l'Iroquois et s'inscrit dans le contexte d'un triptyque qui rend hommage aux Premières Nations, à des figures oubliées de notre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené, peut-être, qui vous a intéressé dans ce type de sujet et dans la volonté de l'explorer dans une série, dans le fond, d'album?
Oui, bien, en fait, je m'intéresse depuis longtemps aux Premières Nations. J'ai toujours eu aussi l'impression de vivre en pays indien. Là, depuis que je suis jeune, on sait bien que nous, ça fait seulement 400 ans qu'on est là, mais il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées avant. Alors, même si notre présence est très apparente aujourd'hui, il y en a eu d'autres auparavant. Alors, ça m'a toujours un peu fasciné, tout ça. Alors, j'ai lu sur le sujet, etc., et à un moment donné, à un certain moment, la digestion s'est faite et j'ai décidé de produire des albums sur cette thématique-là.
Et les albums, en fait, côté lecture, justement, côté documentation, parce qu'on sent qu'il y a une réelle recherche historique d'emblée là-dedans, on va chercher, par exemple, dans des récits historiques, dans des relations et autres, pour essayer de trouver, justement, de mettre la main sur ces différents récits-là.
Oui, en fait, c'est suite à mes lectures qui me faisaient rêver. La lecture des relations des Jésuites peut être un peu ardue, mais on y trouve des perles à travers tout ça. Alors, j'ai été sélectionné les personnages et les anecdotes et les passages qui seraient susceptibles de faire une bonne bande dessinée.
Puis, dans le fond, dans ces éléments-là, dans ces anecdotes-là, j'imagine qu'on cherche à la fois des personnages qui ont une richesse comme telle, à la fois des récits, des parcours. Il y a différents ingrédients qu'on essaie de trouver, dans le fond, dans la sélection, justement, de ces récits-là.
Oui, il y a des histoires absolument incroyables qui méritent d'être racontées. Là. Alors, surtout que c'est des personnages... il y a eu quelques articles de journaux, etc., qui disent des héros, mais c'est pas des héros, c'est des personnages méconnus. Mais leur aventure est tellement intéressante que ça a été pris en note et c'est parvenu jusqu'à nous par le biais des relations des Jésuites et autres écrits. Alors, c'est des sujets en or.
Et effectivement, enfin, on sent dans certains de ces récits-là, dans l'ensemble des récits que vous avez choisi de nous proposer dans Traces de Mocassin, on sent justement cette dimension-là. En fait, on voit, je pense, l'intérêt. Je pense, par exemple, juste à la quête de liberté de Marie Kamak-Tewin-Gwetch, donc cette Algonquienne-là qui s'était échappée d'un village iroquois. Ben, on est pratiquement dans un récit de survie, dans une course-poursuite presque à l'intérieur de ces planches-là.
Absolument. C'est une parmi tant d'autres. Hein. J'en ai encore lu des passages de d'autres. Parce qu'il y a eu beaucoup de relations, beaucoup de faits qui ont été notés sur des évadés comme ça. C'était un peu la monnaie courante à l'époque, là. Parce que bon, il y avait la guerre avec les Iroquois, puis les Iroquois faisaient toujours des capures pour remplacer leur propre mortalité dans leur communauté. Alors, il y a des récits, là, il y en a. Je pourrais faire un autre album juste sur les évadés des villages iroquois, là.
Et qu'est-ce qui vous avait happé dans l'histoire de cet évadé d'Onondagué?
Ben, celle-là, c'est que son histoire a été racontée au complet parce que, bon, elle a fini par atteindre Ville-Marie. Puis c'est que là, elle a tout raconté son histoire. Puis là, celle-là, elle a été notée à mesure qu'elle parlait, là. Tandis que les autres histoires, ben bon, on a un survol général de ce qui leur est arrivé, mais elle a vraiment une histoire avec assez de précision pour le scénario est déjà fait, là. Alors, il s'agit seulement de l'adapter en bande dessinée, qui n'est pas nécessairement facile, mais disons que l'histoire est déjà réalisée, là.
Et après ça, on arrive avec ce récit-là, on le découpe, on essaie de voir un peu, puis c'est un peu vrai pour l'ensemble aussi, dans le fond, de reconstituer les paysages, les endroits, les lieux qu'ils vont visiter, puis de les rendre un peu à l'image de ce qu'ils étaient à l'époque, là, dans les années 1500, 1600.
Oui, ben en fait, j'essaie d'être au niveau historique, j'essaie d'être le plus précis possible. C'est pas toujours facile, j'étais pas là, alors il y a des petits détails là qui peuvent nous échapper. Et aussi, ben les paysages, ben ça, j'essaie d'être aussi le plus réaliste, le plus fidèle possible aux paysages. Alors je fais beaucoup de recherches là avec les outils informatiques, Google Maps, etc. Il y a moyen d'aller chercher Street View, etc. Donc, il y a moyen d'aller chercher, étant donné que je connais l'itinéraire des personnages pour la plupart. Alors, c'est facile d'aller chercher des images des lieux. Et ce que j'aime beaucoup, ben les lieux souvent ont été transformés dû aux constructions de routes, d'immeubles, etc. Alors j'adore déconstruire les lieux et les remettre à leur état originel.
D'essayer de les voir un peu aussi bien souvent parce que somme toute, la plupart des récits sont aussi des récits d'eau, des récits de fleuves, c'est les routes de l'époque. Donc, on revoit ces paysages-là, mais toujours aussi du point de vue des routes d'eau, au bout du compte.
Oui, ben c'est sûr que les autoroutes n'existaient pas. Alors, la meilleure façon de voyager à l'époque, c'était les bateaux, évidemment. C'est pour ça que le canot est très présent. D'ailleurs, moi, ben en fait, je suis un canoteur. Un canoteur d'expérience. Alors, je suis souvent sur les rivières. Alors, c'est un milieu qui m'est familier. Alors, c'est d'autant plus intéressant de les rendre tels que moi je les connais que d'essayer de les transposer aussi dans mes personnages.
Oui, puis j'imagine en fait que d'un point de vue pratico-pratique, le fait d'avoir mis la main dans cette technique-là, dans le canotage, ça permet après ça de mieux comprendre aussi les circuits, les chemins, le transit qu'ils vont le faire. Je reste un peu dans l'exemple de l'évadé d'Onondagué, mais je pourrais aussi sortir vers les autres. Mais pour saisir, pour expliquer aussi, par exemple, dans le premier récit, ou le deuxième récit en fait, Outé-Toukos, c'est ça, donc on nous amène dans les racines autour de l'île Huéron, donc dans le coin aujourd'hui de ce qui est la Chine, mais il faut aussi les expliquer, faire comprendre au lecteur c'est quoi les enjeux relatifs à ces rapides-là, c'est quoi les risques associés au transit par les voies d'eau, etc.
Oui, surtout Outé-Toukos, mais Outé-Toukos, c'est le premier récit qui m'a captivé dans toute cette série-là, avant même l'Iroquois, parce que, en fait, Outé-Toukos, c'est antérieur à l'Iroquois. Et il y a un passage très intéressant dans ça que où Tetoukos, une fois qu'ils ont terminé leur chasse au héron sur l'île au héron, Tetoukos veut sauter les rapides de la Chine telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ils n'ont pas changé. Aujourd'hui, ben là, il y a des kayakistes qui vont s'amuser là-dedans. Il y a des playboats qui descendent les rapides pour les touristes. Mais eux autres, ils étaient en canot d'écorce, là, avec tout chargé de... Il y a un passage succulent qui dit « Ah oui, je l'ai déjà fait, ça passe. » disons, une chose qu'on entend souvent dans les descentes de rivières ou d'autres canotaires que je connais, on est sur une rivière, puis ils disent « Ah oui, ça passe, le rapide, ça passe. » Alors, c'est un passage vraiment qui rejoignait... disons, mon vécu personnel. Alors, je trouvais ça intéressant, le parallèle entre les deux, là.
Oui, puis j'imagine, en fait, c'est toujours un peu pour ceux qui ne font pas de canot, mais le fait de dire que ça passe, c'est pas nécessairement que ça passe facilement non plus. Donc, il faut nous faire prendre conscience un peu des enjeux, puis de ce qui va se passer, puis un peu d'un presque chemin inéluctable, parce qu'au bout du compte, dans Outetoukos, ben, ils sont pas prêts à ce passage-là, leur vaisseau est trop lourd, etc. Donc, il y a une pile d'enjeux qui fait que le ça passe est plus relatif, si on peut dire.
Oui, ben en fait, ça passe toujours. C'est comment ça passe qui est toujours l'inconnu. Parce que on peut passer le canot en droite, mais on peut passer le canot en envers aussi, là. Alors, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Parce que je note d'ailleurs le passage, la suggestion de Savignon qui veut pas passer nécessairement directement dans les rapides, mais passer par un passage plus sécuritaire. En fait, dans d'autres lectures que j'ai lues, ben les Amérindiens, ils sautaient les rapides de la Chine, mais ils passaient pas dans le gros jus, là. Ils passaient du côté droit de la rivière où ce que c'était plus, disons que le passage était un peu plus sécuritaire, là. Alors, Outetoukos, il était un petit peu téméraire, puis il a entraîné ses compagnons avec lui, là.
Et ça, c'est un récit, en fait, vous dites, Louis Rémillard, c'est avant l'Iroquois, en fait, je pense que ça avait été publié dans Trip en 2014, donc c'était un peu une première exploration aussi, j'imagine, du dessin, de la mise en histoire de ces récits issus des Premières Nations-là.
Oui, ça a été ce qui a fait déclencher. Ben en fait, l'Iroquois, j'avais ça dans mes cartons depuis très très longtemps. J'avais l'idée dans le subconscient, quelques petites notes parce que l'Iroquois, ça m'avait inspiré sur les quatre lignes dans lesquelles c'est mentionné dans les relations des Jésuites où l'ambassadeur Iroquois, quand il revient avec Tokraené-Yaron, pour le traité de paix, fait, disons, des discours, des chants et des danses pour disons, résumer le voyage de l'Iroquois. Alors ça m'avait inspiré. Alors j'avais toujours ça un peu dans le subconscient, mais Outetoukos, ça a été, disons, le produit fini dans lequel je me suis lancé pour la première fois, là. C'est pour ça, d'ailleurs, que le dessin est un peu plus simple. Un peu plus simple que les autres histoires, un peu, là, les paysages sont moins définis, etc., là, mais c'était le contenu qui m'intéressait.
Oui, puis ça permet, j'imagine, aussi de se mettre la main dedans un peu, justement, dans le contenu de l'approprié, de l'apprivoiser. Puis éventuellement, j'imagine, de mettre en place une certaine méthode ou approche pour justement traiter le paysage, la mise en scène, votre approche, votre relation avec ces récits-là, dans le fond.
Oui, c'est ça. Ça a été une première mise en contexte, là. J'ai focusé un peu sur les rapides parce que c'était le parallèle avec mon vécu de canotaire d'eau vive qui m'a motivé un petit peu à faire cette histoire-là. Alors, mais j'ai pas poussé l'exercice de paysage beaucoup plus loin que d'illustrer les rapides.
Et après ça, bien évidemment, ça a pris les dimensions qu'on connaît avec le retour de l'Iroquois, puis ensuite avec les autres récits que vous avez développés dans Traces de Mocassin.
Oui, c'est ça. Ça s'améliore un peu. D'ailleurs, je m'améliore encore au niveau des représentations des canaux, etc. Parce que là, je suis en train de travailler sur un autre projet qui est assez difficile, qui s'appelle Route de Troc. Alors, c'est encore les voies d'eau avec les différents groupes autochtones qui convergent vers un lieu de rassemblement qui se trouve à Trois-Rivières avec des items de troc de l'époque, des wampums, du cuivre natif, le quartz de Mistassini, etc. Alors, je suis confronté toujours. Ça, c'est vraiment une saga, là, parce qu'il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de personnages. Je suis en train peut-être un petit peu de me casser les dents sur ce projet, parce qu'il n'est pas facile. Donc, c'est toujours de retrouver le ton juste et la bonne représentation. Parce que j'ai eu un courriel récemment, quelqu'un qui me parlait des passagers, le nombre de passagers que les canots indiens pouvaient contenir. Alors là, j'y ai répondu avec différentes sources que bon, dans les relations des Jésuites, il y en a qui disent qu'il y a un canot qui a huit passagers, l'autre en a 10, l'autre parce que je suis assez précis dans le nombre de passagers qu'il y a dans chaque canot, dans chaque histoire de traces de mocassins. Alors là, je précise encore un peu plus là. La position des gens dans le canot, etc. Là. Fait que c'est une recherche, ça finit pas là.
Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est les boîtes de Pandore, dans la mesure où il y a beaucoup de sources, il y a de la documentation, mais j'imagine que c'est pas ne serait-ce que dans les relations, des fois, il y a des éléments qui disent puis qui se dédisent un peu ou que ça change un peu. Donc, il y a quand même, j'ai l'impression, une bonne job d'organisation des sources autant de la source primaire qu'après ça des éléments secondaires qui viennent valider justement combien tel, les canaux sont faits comment, cette route-là exactement, telle ville, tel village, ou donc d'autres éléments qui viennent s'ajouter à la recherche historique de départ. Là.
Oui, en fait, il y a la recherche historique au départ. D'ailleurs, dans les propos des jésuites ou autres, il peut avoir aussi des erreurs, là. Ils peuvent se tromper eux-mêmes. Les erreurs s'enchaînent. Et aussi le fait qu'il y a plusieurs éléments là, qui peuvent contenir l'histoire, mais il faut aussi réussir à sortir du produit brut là, historique, de la documentation pour essayer de faire une histoire où il y a un peu d'émotion, où il y a de l'intérêt là. Alors c'est pas à cause que l'histoire existe que c'est tout cuit là, que la bande dessinée sort tout cuit du lot là.
Oui, effectivement, ben, en fait, on revient un peu à ce qu'on se disait tantôt, où il faut trouver une histoire quand on creuse un peu dans les récits historiques, mais il faut aussi, j'imagine, se trouver des personnages. Dans le fond, il faut avoir des personnages qui vont nous inspirer, dont on va avoir envie de raconter l'histoire, des Savignons, des Pièce-Carette aussi, par exemple. Pièce-Carette, c'est un bon exemple de personnage, puis au bout du compte, dans Traces de Mocassin, la BD, c'est un peu une exploration de qui il était, de pourquoi il avait sa réputation. Donc, c'est le personnage qui inspire le récit au départ.
Oui, absolument. C'est le personnage et son histoire. Dans le cas de Pièce-Carette, ben en fait, c'est le plus connu de la gang, là, qui a beaucoup de. Ben en fait, moi, j'ai réinterprété tout ce que j'ai trouvé sur lui, mais c'est un personnage assez important qui a participé à beaucoup d'éléments historiques que j'ai pas inclus dans l'histoire, mais des traités de paix, etc. Là. Alors, celui-là est le plus connu. Les autres sont moins connus un peu, non?
Oui, ben en fait, il y a Savignon, évidemment, qui est aussi, dans le fond, ben, le premier échange, entre guillemets, international. Donc, Savignon, il s'était rendu en France dans les années 1610. C'est peut-être un peu dans les figures aussi qui ont ressorti un peu plus dans les livres d'histoire. Et un récit qui, j'imagine, pour Louis Rémillard, le dessinateur, ça fait changement aussi parce que là, subitement, on fait une escale par Paris, on sort dans le fond des forêts québécoises pour se retrouver dans la ville, entre guillemets, dans la ville lumière des années 1600.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, Savignon, justement, c'est une histoire intéressante parce que il y a pas beaucoup de mentions sur lui dans les livres. Parce que bon, c'est pas une figure importante. C'était un jeune adolescent là, que Champlain était obligé d'avoir avec lui parce qu'il était échangé avec Étienne Brûlé, En fait, Étienne Brûlé, Champlain voulait envoyer Étienne Brûlé avec retourner avec les Hurons pour que Étienne Brûlé puisse découvrir le pays qui n'était pas encore découvert à ce moment-là. Mais les Amérindiens ont dit écoute, ça ne marche pas comme ça. Si tu nous confies un jeune, on va t'en confier un, nous aussi. Alors, il était obligé de prendre Savignan avec lui. Alors, ce qui est drôle avec ça, c'est que quand j'ai fait Savignan, ben j'avais déjà le scénario de fait, mais j'ai eu une bourse de résidence à Bordeaux. Alors, j'ai décidé de faire Savignan pendant que j'étais là-bas. Alors, il y avait un parallèle avec moi que, bon, moi, la saison de canot n'était pas encore terminée, la saison de pêche non plus. Alors, j'ai été comme arraché de mon pays pour aller passer 2 mois à Bordeaux. Alors, j'ai décidé de faire Savignon qui a vécu un peu la même histoire. Et j'ai essayé de trouver aussi des vues de Paris. Alors, j'ai fait des recherches incroyables sur des vieilles estampes qui représentaient la ville de Paris dans les années 1610. Alors, ce que j'illustre dans l'épisode, c'est des vues de Paris qui sont quand même assez réalistes, là.
Oui, puis en fait, qui sortent un peu, j'ai l'impression, ben, en fait, quand on regarde Le Retour de l'Iroquois, quand on regarde même aussi Voyage en zone, en fait, vos albums précédents. Donc, c'est surtout des albums dans des grandes étendues naturelles. Alors, je trouvais que c'était intéressant et que ça doit être assez un autre type de défi, dans le fond, de se retrouver dans du dessin de plus urbain, toujours dans un contexte quand même historique.
Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est sûr que si quand on est un auteur puis on illustre notre quotidien, c'est beaucoup plus facile que d'illustrer quelque chose qui s'est passé il y a 400 ans. Alors, c'est toujours le défi de trouver un détail. T'sais, par exemple, dans Pièce Carrette, on parle de balles ramées. Balle ramée, mais là, moi, tout ce que j'ai sous les yeux, c'est le mot, là, balle ramée, là. Alors, j'ai dit, c'est quoi des balles ramées, là? Il faut faire des recherches là-dessus, puis essayer de trouver qu'est-ce que ça a de l'air et tout. Alors, l'album, toutes les histoires comportent cette difficulté-là, là.
Oui, surtout dans un contexte où il y a des éléments qui sont documentés, mais d'autres qui ne le sont pas tant. Nécessairement, après ça, c'est la première représentation qu'on trouve n'est pas nécessairement non plus la bonne. Donc, il y a toujours des validations. On revient à ces validations, à ces doubles validations-là qui prolongent aussi, j'imagine, un peu le travail, puis qui peuvent représenter des difficultés qu'on n'avait pas nécessairement anticipées au départ.
Non, c'est ça. On lit une histoire, on trouve une histoire bonne, ça nous fait rêver, l'imagination s'envole, mais une fois que quand c'est le temps de le dessiner sur papier, c'est un autre paire de manches.
Et autre récit qu'on retrouve dans Traces de mocassins, parce que je trouvais peut-être question générale d'entrée de jeu, dans le choix des récits, parce qu'on est dans le contexte d'un recueil de courtes histoires, j'ai l'impression qu'on va quand même chercher une belle variété justement de types d'aventures, de types de récits. On parlait donc de récits plus de survie, de course-poursuite, on a des portraits un peu plus de personnages, on a une anecdote plus ciblée dans le temps, et on se retrouve aussi avec un récit comme La Tente tremblante, où là on est plus dans un récit didactique, dans le fond où on nous explique avec un exemple, avec des mises en contexte, donc un espèce de documentaire historique, dans le fond, sur le chamanisme, sur la tente tremblante et sur les croyances, dans le fond, de certains peuples des Premières Nations à l'époque, là.
Oui, la tente tremblante est un petit peu différente. Donc, la tente tremblante dans le milieu autochtone ou dans le milieu des historiens, etc., est assez connu. Mais dans le grand public, la tente tremblante... pas tout le monde qui parle de ça tous les jours, là. Alors, je trouvais que c'était intéressant de faire une histoire là-dessus. Alors, c'est sûr que là, mais c'est intéressant à faire, mais c'est peut-être pas évident à faire non plus, là. Alors, il a fallu que je me documente, que je trouve des éléments à raconter. Alors, je me suis inspiré pour le contexte d'un missionnaire qui a existé, qui est Louis Babel, qui a exploré le nord du Québec. C'est lui-même qui a découvert la présence de fer au nord du Québec. Alors, c'était à partir de son expérience qu'il était avec des chasseurs, des chasseurs autochtones, puis il trouvait pas de gibier, puis il avait faim, puis c'est l'histoire que je raconte, là, que les Autochtones lui demandent de prier pour trouver du gibier, puis ça fonctionne pas, puis ils font une tente tremblante, puis là, ça fonctionne. Alors, je trouvais la chose intéressante, mais c'était quand même un petit peu mince. Alors, j'ai été un petit peu plus du côté didactique sur un débat entre le vrai et le faux pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors j'ai présenté les argumentaires des deux côtés. Là.
Et ça vient, en fait, ça vient ajouter à la variété, parce que pour revenir un peu à la parenthèse de départ que j'avais ouverte, dans le fond, on a une variété de récits. Est-ce que c'était quelque chose qui était souhaité dès le départ, ou c'est simplement instinctivement, dans le fond, que la variété s'est installée à l'intérieur des six récits là, de traces de mocassins?
Ben, en fait, au départ, ben, c'est la variété des histoires versus les personnages. Et parce que la tente tremblante se situe à la dernière histoire, mais c'est la dernière histoire aussi que j'ai réalisée. Alors, j'étais un petit peu épuisé après la poursuite de Kamaka Tewinwesh. Je me suis même posé la question, est-ce que je la fais celle-là? Mais j'ai décidé de la faire quand même. Alors, c'est sûr que là, il y a une petite différence, mais je trouvais le sujet intéressant.
Et évidemment, l'autre élément qui, si on place un peu dans la suite du Retour de l'Iroquois, donc Retour de l'Iroquois, on est plus dans un récit long, un récit classique. Dans Traces de mocassins, plus des récits courts. J'imagine d'un côté, est-ce que c'est parce que ces récits-là, justement, se prêtaient un peu mieux à la forme courte dans l'esprit que vous vouliez amener? Ou est-ce qu'en parallèle, vous aviez envie aussi, vous, comme auteur, ben de vous attaquer à un autre rythme, à un autre type de récit, puis à des courts projets, dans le fond, plutôt qu'un projet plus long, plus dense?
Ben, en fait, c'est une des histoires. Alors, chaque histoire était peut-être le contenu était peut-être un peu mince pour en faire un album. Alors, étant donné que toutes ces histoires-là que m'intéressaient, et il y a beaucoup d'histoires qui vont ensemble, comme par exemple Outetoukos s'enchaîne avec Savignon, parce que Savignon est présent dans Outetoukos et il est présent dans son épisode à lui, donc c'est un peu comme la même histoire. C'est où Pièce-Carrette, la fin de Pièce-Carrette s'enchaîne avec l'évadé d'Onondagué, parce que c'est les conséquences de ce qui arrive dans Pièce-Carrette qui se produit avec Onondagué. Donc, déjà là, ces deux-là, c'est plus deux histoires que quatre histoires, mais c'est sur des personnages différents. Alors, j'ai décidé de fractionner tout ça pour faire des petites histoires, pour avoir un survol plus général. Au lieu de parler juste d'une personne, on a plusieurs personnes. Alors, ça donne une résonance au personnage méconnu là, de Serge Bouchard, là, de son émission là, et de ses livres sur le titre m'échappe là.
Moi aussi, mais en fait, je pense qu'on cible un peu là, ces figures méconnues de l'histoire. Puis j'imagine, est-ce que la forme courte, dans le fond, ça permet aussi de prendre de donner un autre rythme de travail, de création? Parce que tu restes que, dans le fond, une fois qu'on ferme une histoire en 8, 7, 8, 10 planches, c'est l'épisode est clos. Donc on a un autre rythme de travail, une autre intensité de travail comparativement à un album plus classique?
Oui, ben en fait, le travail est toujours aussi exigeant de que ce soit long ou court, mais quand on a fini une histoire, ben c'est une étape vraiment close, une étape terminée. C'est sûr que chaque histoire, j'aurais pu quand même allonger ça parce que dans l'Iroquois, ben il y a beaucoup de plages où c'est les paysages seulement, où il se passe pas grand-chose. Alors j'aurais pu faire plus ça avec toutes ces histoires-là, mais en faisant des histoires pas trop longues, il y a un rythme qui s'installe et qui fait que ben les gens bon ils lisent l'album au complet puis bon là après ça ils ont leur préférence. Ah, j'aime mieux aimer celle-là, j'ai mieux aimé l'autre. Ça que c'est intéressant pour moi de savoir le feedback là, des lecteurs là, au niveau de leur lecture, là, qu'est-ce qu'ils ont préféré, qu'est-ce qui les a marqués plus.
Et j'imagine que comme auteur, on revient aussi vers l'essentiel, il faut éviter le superflu, il faut aller de façon quand même assez directe aussi dans le récit, dans son développement.
Oui, c'est ça, il faut être clair. Il faut que ce soit efficace, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas y aller dans le superflu. On peut quand même y aller un peu, en mettre un peu plus, là, mais c'est bon d'être concis, précis, comme ça, on va direct à l'essentiel.
Et tout ça dans le contexte de sujet, et je pense que c'est comme une question qu'on peut pas esquisser, mais je ressens et j'ai l'impression que c'est un ouvrage qui a été aussi développé avec sensibilité, avec respect, avec rigueur et des éléments qui sont de mise quand on aborde les Premières Nations.
Là. Oui, ben ça, c'est là, on tombe dans un délicat parce que bon, c'est toujours. C'est sûr que moi, j'essaie d'être de travailler avec le plus de précision possible, de pas raconter n'importe quoi, d'y aller avec une rigueur historique, mais aussi y aller avec un respect là, au niveau des personnages que je décide de raconter leur histoire. Alors, il y a toujours depuis un certain temps le fantôme de l'appropriation culturelle qui rôde là. Alors, on marche là. Je pense pas qu'il y a aucun autochtone qui soit insulté à lire mes livres, là. Mais c'est d'eux autres que je parle. Et moi, j'en alors leur position pour les autochtones quand on parle d'eux autres, ben ils disent si vous parlez de nous, ben on fait partie de ton projet. Là. Alors. Là, c'est sûr que là, c'est des histoires qui sont tirées d'écrits qui datent de 400 ans. Alors, au niveau des droits d'auteur, bon, je suis correct. L'histoire, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du patrimoine culturel de l'humanité, mais on traite quand même les autochtones. Alors, les autochtones, eux autres, ils sont plus en mode collaboration. Alors, actuellement, pour le projet que je travaille, j'essaie toujours de trouver des interlocuteurs autochtones, des collaborateurs autochtones, mais c'est pas facile à trouver. Là.
Mm-hmm. Et enfin, on revient après ça au processus de validation, justement, donc pour s'assurer que ce qu'on représente est réaliste et validé, etc. Donc, ça revient un peu à la notion de rigueur, je pense, qui est très présente, puis c'était valide aussi pour le retour de l'Iroquois. Donc, il y a une rigueur dans la manière dont on choisit d'adresser l'histoire puis de la rendre de façon crédible, réaliste, puis avec des assises concrètes, là, si on peut dire.
Oui, c'est ça. Ben, il faut être réaliste. Il ne faut pas non plus être idéaliste non plus. Là. Ça veut dire, il n'y a personne de parfait. Là. Alors, les Autochtones, comme n'importe qui, avaient leur qualité, leurs défauts. Alors, il ne s'agit pas de mettre seulement des qualités ou seulement mettre des défauts. Là. Il faut mettre être une espèce d'un niveau, disons, être équilibré. Là.
Et évidemment, dans le fond, je le mentionne, l'album dont on parle, c'est Traces de Mocassin, qui est sorti il y a de ça quelques semaines, donc qui est disponible en librairie, qui s'inscrit à la suite donc de ce retour de l'Iroquois que vous nous aviez offert il y a quelques années et qui s'inscrit aussi dans la suite d'un autre album, vous l'avez mentionné, donc Route de Troc, qui est le troisième, dans le fond, de cette trilogie autochtone, si on peut dire, que vous nous proposez.
Oui, ça, c'est j'essaie de faire celui-là, mais... Là encore, c'est pas un projet facile. Alors, j'ai beaucoup de... une centaine de pages d'écrits, découpages j'ai fait, mais il faut que je trouve un fil conducteur là pour dans les personnages et tout ça. Alors, c'est pas... je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais il y a aussi un autre projet. Il y a aussi un autre projet historique qui est dans... qui est dans le disons, dans mon panorama. Alors peut-être que puis celui-là, il faut qu'il sorte. C'est au sujet des filles du roi qui veulent fêter leur 400e anniversaire en 2023. Ils aimeraient avoir un album de bande dessinée. Alors ça, c'est dans les projets qui sont dans le carton, mais c'est 2023, ça arrive assez vite, là. Alors moi, je suis pas une machine, là. Je produis pas un album par année, surtout avec les recherches puis les dessins qui le genre de dessin que je fais, là, ça se fait pas en 2 minutes, là. Alors, ça me prend un certain temps à faire un album. Alors, peut-être que je vais faire une si ce projet-là se développe plus rapidement que prévu, il va falloir que j'enclenche sur celui-là et que je fasse une pause sur Route de Troc. Mais ça va rester quand même dans le domaine historique, là.
Alors, des albums qui s'en viennent, mais d'ici là, on a du très, très bon matériel à se mettre sous les yeux et sous les dents. Louis Rémillard, merci beaucoup. Et je rappelle donc l'album dont on parlait s'appelle Traces de Mocassin et c'est disponible du côté de chez Moelle Graphique. On est toujours dans le cadre de La Vie en BD et comme c'est à l'habitude, à chaque mois, on fait le point sur les lectures BD de Stéphane Gravel. Alors, il est avec nous pour ses lectures de décembre. Stéphane, salut.
Demi-décembre.
Oui, bon. En fait, le mois finit un peu plus tôt, j'ai l'impression, avec la semaine prochaine, on est en club de lecture, puis après ça, c'est les grandes vacances des fêtes avec le retour en janvier. Donc, effectivement, je pense qu'en termes de lecture et de temps de partage, on a effectivement un demi-mois.
J'ai eu quand même un demi-mois assez actif en BD, fait que c'est plutôt cool. D'abord, j'ai lu la BD La Bête de Zidrou et Franck P. Et ça a été pour moi, cette BD-là, une surprise extraordinaire qui m'a complètement amené ailleurs. Je ne sais pas si toi, tu l'as lu.
Je ne l'ai pas lu encore.
Écoute, c'était paru dans le journal Spirou. Là. Moi, j'ai toujours mon petit journal Spirou à tous les mercredis depuis.
Moi aussi, en fait, c'est
longtemps.
Des mini-fascicules format
exactement.
Réduit un peu. Là.
C'était, mais, là, mais là, l'album est sorti format album, c'est-à-dire que le petit fascicule est au carré, là. C'est grand. Et c'était intéressant quand c'était en petit fascicule, mais c'est tellement beau. Hein, c'est tellement beau en grande BD, cette BD-là. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atmosphère. Le dessin est d'une richesse à tomber sur le dos. Honnêtement, j'ai été extrêmement touché par cette BD-là. On est loin de l'univers de Franquin. On est loin de la bête de Franquin. Je ne l'ai même pas encore dit. C'est le marché de l'ami, cette bête-là qu'on va découvrir dans cette BD-là. Mais par contre, on voit la grandeur de Franquin d'avoir inventé à l'époque un animal aussi intéressant que le marsupilami. Mais là, on tombe dans un monde un petit peu plus, à la fois très BD, parce que le dessin de Franck P. est très bande dessinée, et pas, il n'y a rien de réaliste là-dedans, il y a son style à lui, mais il y a un climat qui reste que tout est crédible dans cette BD-là. On n'est pas dans un Spirou, on n'est pas dans un univers de Dupuis, de Franquin, Campé. On est dans quelque chose de réaliste. Là.
Mais c'est ce qui fait la volonté. En fait, je pense que c'est la volonté au départ du projet. C'est-à-dire, dans le fond, et si on était dans un univers réaliste avec le marsupilami, comment on l'intègre, comment il s'insère et vers où ça nous amène? Dans le fond, ça me donnait l'impression qu'on partait vraiment de cet a priori-là.
On part de cette idée-là, un peu comme on a fait avec les Spirou vus par, là, ou les Spirou qui se passent pendant la Deuxième Guerre. On essaie d'incarner de plus en plus les personnages qui faisaient partie à l'époque d'un journal dans un monde qui est plus, qui est entre guillemets, bien sûr, plus réaliste. On le fait un peu partout, hein. On le fait maintenant aussi dans les univers Marvel, dans les univers DC. Les multimondes existent.
La question est intéressante, en fait. C'est de voir justement si on était capable de partir d'un univers fantastique puis d'y trouver des assises dans le réel. L'idée est intéressante. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle est remâchée partout. Mais justement, ça amène toujours un peu la question. Puis de ce que j'entends de tes commentaires au départ sur le fait que c'est une BD remarquable, c'est que c'est un remâchage réussi justement qui va au-delà du concept, qui réussit à se l'approprier puis à l'amener plus loin que simplement de faire de l'intendance, là.
Absolument, absolument. Parce que, ça reste que c'était quelque chose qui a touché, personnellement, en tout cas pour ma génération de lecteurs de BD, notre jeunesse, c'est-à-dire que le Marsupilami, c'est un personnage de notre jeunesse. Et puis là, en l'amenant comme ça, ça peut être dangereux d'en faire un nouveau personnage ou quelque chose d'un peu désincarné, mais c'est assez bien fait, c'est assez fin que... On n'a pas ce feeling-là. On lit quelque chose de nouveau avec le Marsupilami, mais avec un Marsupilami qui a été traité avec respect, quelque part. Fait que c'est très, très... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis content de voir que c'est le tome 1 parce que j'ai hâte d'en lire d'autres et j'ai le goût d'en lire d'autres. Et puis, par contre, bon, et pas par contre, mais c'est certain que à quelque part, un personnage bizarre comme le Marsupilami qui arrive dans une ville et qui se fait adopter par un enfant, parce que c'est ça l'histoire, on ne peut pas s'empêcher non plus de penser à Haïti. Il y a quelque chose dans ça qui est très Haïti. Mais ça fonctionne un peu aussi comme Haïti. C'est-à-dire que cette bête-là, on s'y attache, l'enfant s'y attache. On voit qu'elle ne sera pas aimée et respectée de tous, c'est sûr, mais elle va être surprotégée par un enfant. Il va se bâtir une relation que nous aussi, on va avoir avec cet animal-là. Fait que c'est là que le Marsupilami peut devenir un personnage qui est nouveau pour les nouveaux lecteurs. Et tandis que nous, anciens lecteurs des Spirou avec le Marsupilami, ben on va voir des références et on va avoir des choses qui viennent de notre enfance qui va continuer à créer cet attachement-là et on va avoir le goût de le lire aussi. Donc, c'est assez...
Tout le monde a le goût de le lire.
Ah non, c'est vraiment bon. C'est de la BD, c'est de la vraie BD. Je sais pas, c'est quoi la fausse BD, c'est quoi la vraie BD, Raymond, pose-moi pas la question, s'il te plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un divertissement. C'est beau, c'est un divertissement. Le papier est beau, la couleur est belle, le traitement est bien fait. Je te dis, j'avais le goût de le lire, mais comme souvent je le dis, je ne m'attendais pas à avoir un si beau moment de lecture en lisant ça. Je pensais que j'allais tomber dans du ramaché et on essaie de faire du nouveau avec du vieux. Mais je ne me suis pas senti là. Peut-être que certains vont sentir là, mais moi, je ne me suis pas senti là.
Et parallèlement, il faut dire, en fait, parfois on cherche un peu, on est un peu, bon, à la fin de l'année, il y a toutes les palmarès qui vont sortir, il y a aussi la sélection d'Angoulême qui est sortie, il y a plein d'éléments comme ça qui nous donnent des idées ou des flash lectures. De ton côté, Stéphane, toi, tu t'es orienté peut-être tout naturellement d'entrée de jeu vers la liste des finalistes du Fauve Pollard d'Angoulême.
Oui, oui. Ben, écoute, c'est la bête m'a un peu emmené là, comme tu dis, exactement comme tu dis, regarde ça, puis là, tu dis, qu'est-ce qu'il y a de cette grande qualité-là cette année? Hey, j'en mets beaucoup sur la bête, là. Et là, je me suis mis à fouiller, à Angoulême, je regardais, puis là, je suis allé du côté, je regardais un peu partout, je regardais du côté du port, puis il y avait une BD qui était passée un petit peu inaperçue, que j'avais le goût de lire, de Berthet et Fromental, de l'autre côté de la frontière. C'est deux auteurs que, habituellement, j'aime beaucoup. C'est un peu comme l'univers de Franquin. Là, j'ai l'impression que Berthet, avec Le Privé d'Hollywood, traîne dans mon background BD depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé son dessin à cause des références au cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. Il y a un côté cinéma très polar, un cinéma des années 50, 60, un dessin très, très, très schématisé. J'ai toujours aimé l'ambiance et l'atmosphère qui créait dans ces bandes dessinées. Là, je me suis attaqué de l'autre côté de la frontière et là, j'ai été... C'est drôle... Soit que j'ai vieilli ou je ne sais pas, il s'est passé quelque chose qui fait que je m'attendais, contrairement à la bête, je m'attendais à beaucoup de cette bande dessinée-là, d'autant plus qu'elle est en nomination à Angoulême. Et puis là, je suis tombé sur une BD extrêmement belle, c'est vrai, bien racontée aussi, c'est vrai, mais avec une approche de la femme qui m'a dérangé. C'est-à-dire que le petit côté pin-up, le petit côté... femme fatale, le petit côté sexy, peut-être que ça marchait avec moi quand j'avais 16-17 ans, et peut-être que maintenant, comme adulte, je trouve ça, avec le temps passe, les années passent, peut-être que j'ai trouvé ça un peu déplacé. J'ai embarqué, j'ai aimé la bande dessinée quand même, j'ai embarqué. C'est une histoire assez intéressante de Polar. Et là, pour en arriver à la fin où toute cette BD-là, tout ce qui s'est passé, toutes les relations entre les personnages sont racontées, se fait raconter à peu près en 4 pages à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, là, il
Ça
y a comme une
déboule, ça va très vite.
course,
C'est
il y a
assez
comme une
particulier comme
course.
construction, dans le fond.
Là, j'ai trouvé ça tellement particulier comme construction que je suis allé voir Will Eisner après, puis je suis allé lire les clés pour la bande dessinée. Mais bon, je reviens. Mais j'ai trouvé ça spécial parce que j'ai dit pourquoi on n'a pas réussi à me camper tout ça. Et là, à la fin, il y a une espèce de postface de 4-5 pages en texte écrit, pas de bulle, pas de BD, pas de dessin. Il n'y a personne qui m'écoute, là, Raymond. Habituellement, je ne les lis pas, ces affaires-là.
Mais
Quand
là, tu as
j'ai...
ressenti le besoin de...
Mais là, j'ai dit, je vais le lire. Puis là, ah, là, je suis en train de me rendre compte que cette BD-là est une adaptation d'un roman, Le fond de la bouteille, de Georges Simenon, quand il est allé faire un passage aux États-Unis. Et c'est un peu une partie autobiographique de son histoire. C'est un récit un peu autobiographique. Et puis, tout ce que la BD est en référence avec ce roman-là et avec la vraie vie de Simenon. Et là, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, cette BD-là, elle a existé juste dans mes derniers moments de lecture. Et là, tout d'un coup, a posteriori, j'ai aimé ça. Ça m'a fait un drôle de feeling. Je me suis dit, c'est arrivé à la fin où on m'a amené, qu'on m'a déboulé les affaires, qu'on m'a rempli d'informations supplémentaires. Puis là, j'ai compris qu'est-ce que je venais d'avoir lu. Puis je suis content de l'avoir lu après, au lieu de l'avoir lu au début, en préface, comme ça aurait pu être dans un paquet de livres. Parce que je ne savais pas où j'étais. Et je pense que ce côté mystérieux-là de l'histoire fait que t'embarques une drôle de moment de vie en lisant ça. Mais c'est très conventionnel, là. C'est très classique. Il n'y a rien de flyé là-dedans. Là. C'est du Berthet Fromental. Mais étant donné qu'il y a tellement de références, ben, la BD devient soudainement intéressante. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est probablement en nomination à Angoulême dans le Polar, cette BD-là.
Mais ça, c'est la BD, en fait, je rappelle, c'est de l'autre côté de la frontière de Berthet et Fromental, c'est chez Dargaud. Mais Stéphane, t'as mentionné tantôt, parce que, évidemment, on s'amuse à suivre un peu tes lectures mensuelles, t'as dit que tu étais retourné vers les clés de la bande dessinée d'Eisner chez Delcourt.
Ah oui, c'est un peu niaiseux. Hein. J'ai lu ce récit-là, je lisais de l'autre côté de la frontière, puis là, je me suis dit, c'est quoi cette construction de BD-là? Puis là, je me suis remis à aller voir dans les clés de la bande dessinée de Will Eisner, parce que ça faisait longtemps que je l'avais feuilleté, ce livre-là. Il est paru l'année passée en édition intégrale chez Delcourt en 2019. Les clés de la bande dessinée en français, il me semble que ça a été édité après la mort de Will Eisner. Et c'est un ouvrage extrêmement intéressant et d'un intellectuel rigolo aussi sur la bande dessinée et comment lire la bande dessinée, comment faire la bande dessinée, comment voir la bande dessinée, qu'est-ce qu'il pense de la bande dessinée. Et j'ai trouvé ça extrêmement. Je te dis pas que je l'ai lu, je vous dis pas que je l'ai lu, puis je me suis rentré dedans au complet parce que là, c'est un volume c'est un
C'est
volume
dense, en
avec les
fait.
3 tomes. Je veux dire, ça a 600 pages, là. Fait que, c'est sûr que les clés de la bande dessinée pour lui, le côté au niveau de la narration, qui est son premier tome, qui est sur l'art séquentiel, il y a vraiment chez lui là, une façon de voir la BD dans ses séquences et dans la façon de raconter qu'est-ce qui existe entre les cases, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on décide de dessiner, de ne pas dessiner, comment on va tronquer le mouvement. C'est des choses qu'on sait, c'est des choses qui... on lit une bande dessinée, on ne pense pas à ça, là.
Des fois, c'est bon de se le faire rappeler parce qu'il y a un plaisir quand même d'un côté à vivre l'expérience sans penser au mécanisme, mais de l'autre aussi de se dire, bien, pourquoi j'ai vécu une expérience si particulière ou si bonne? Qu'est-ce que fait au niveau de la narration, au niveau de la mise en scène, au niveau des procédés mis en place que j'ai embarqué autant et c'est plaisant de s'amuser à faire, à l'analyser de cette façon-là un peu. Là.
Et Will Eisner, là, c'est un champion. Là. C'est un champion de la bande dessinée. Là. Je ne peux pas dire, et ça c'est une question de goût, là, que je suis attiré par ce qu'il fait. Je ne suis pas nécessairement un fan de son trait ou de son dessin, même si son dessin est grandiose. C'est un peu comme un film d'Orson Welles. Peut-être qu'on n'a pas le goût d'avoir ces images trop noires et blanches, trop contrastées, trop parfaites. Peut-être que... mais ça reste que c'est des gens qui ont fait des œuvres qui sont majeures et qui ont demandé une réflexion sur leur art. Et lui, Eisner, a réfléchi lui-même sur cet art-là. Il y a peu d'ouvrages, je trouve, sur la bande dessinée. La BD,
ou surtout des ouvrages sur la bande dessinée, en bande dessinée aussi. Là, je pense aux trois de Scott McCloud. Il y a celui-là d'Eisner. Il y en a peut-être quelques autres, mais qui sont pas non plus à volonté plus pédagogique dans un contexte scolaire, là, apprendre à dessiner, apprendre à structurer, là, qui ne sont pas dans une logique d'apprentissage, mais plutôt pour accompagner Exactement. L'analyse. Et qui ne tombe pas non plus dans des trucs plus académiques, à la limite aussi, si je rentre un peu dans le cahier de la BD, si je vais dans des études universitaires qui vont analyser des œuvres, qui vont donner des clés de compréhension sur des périodes historiques, mais effectivement, sur des ouvrages de vulgarisation structurelle, mais dans une perspective analytique, il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas beaucoup, parce que si on tombe dans... sinon, on va tomber dans Pierre Fresneau-Desruelle ou des ouvrages qui sont d'un intellectualisme... rigolo sur la bande dessinée. C'est très brillant.
Ou sinon des trucs comme les 100 meilleures cases, les 100 meilleures planches.
Ouais.
C'est des éléments où on va faire des courtes analyses d'un ensemble d'éléments, mais effectivement, c'est pas dans le même.
Je trouve que Will Eisner a cette qualité-là d'être un peu à cheval, d'être un peu... De toucher un peu aux deux. Il va assez à profondeur pour se poser des questions, être assez intellectuel pour que son terme art séquentiel devienne un terme maintenant reconnu en bande dessinée. Et en même temps, il va raconter avec des dessins, avec des exemples, c'est sûr, et qui sont les siens. Tu parlais tantôt des ouvrages de Scott McCloud qui sont, eux, très racontés. La BD en BD, et c'est très, très fascinant et c'est très intéressant parce qu'il réussit à te faire comprendre par le même moyen ce qu'il veut te faire comprendre. C'est un peu c'est un peu la mise en abîme de la bande dessinée qu'il réussit à faire. Will Eisner, c'est un petit peu plus partagé, cet ouvrage-là, c'est-à-dire que c'est autant parfois des textes que autant parfois des moments en bande dessinée. Donc, il y a beaucoup d'analyses écrites aussi et certaines autres choses en bande dessinée.
Donc, le dernier chapitre, l'ouvrage savant puis l'ouvrage plus vulgarisé.
Exactement. Le dernier chapitre sur les personnages, on aurait tendance à vouloir le laisser de côté parce que c'est moins, entre guillemets, structurel, mais c'est que là, il explique comment les personnages sont intéressants en bande dessinée, sont importants, et c'est là il nous amène un peu, entre guillemets, le jeu d'acteur. Fait qu'on tombe vraiment dans quelle attitude doit avoir mon personnage, quel est son squelette, comment je dois le faire agir pour qu'il puisse passer certaines émotions. Et ça, on l'oublie tellement comment c'est difficile de dessiner des épaules tombantes ou des épaules courageuses. C'est incroyable tout ce qu'on est capable de faire sentir en bande dessinée. Et Will Eisner a touché à tout ça. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant, cet ouvrage-là.
En plus, c'est intéressant
à lire ça.
et parallèlement, c'était...
Ça m'a fait plonger, encore une fois, là. C'est comme des poupées russes, mes lectures cette semaine.
Parce
là.
Que dans ma tête, quand on lit un truc analytique, après ça, on en retourne vers des chefs-d'œuvre pour, je sais pas, s'en réimprégner l'esprit à la lecture de ce qu'on vient de lire.
Ben, il parle beaucoup de Mars dans son
ouvrage. En plus.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, Mars, je pense que j'ai lu Mars quand ça a sorti, puis j'ai pas relu Mars. Mars est un ouvrage... exceptionnel. C'était vraiment un ouvrage exceptionnel en bande dessinée. Pour moi, c'est un des grands classiques qui est difficile à pousser. Là. Je ne sais pas si...
En fait, je pense qu'on peut dire que c'est un des grands classiques, point, puis tu n'as pas besoin de dire pour moi, c'est un des grands classiques.
Oui, tu as raison. C'est un des grands classiques. Maintenant, beaucoup étudient à l'école. Là, j'ai vu mes enfants, moi, au cours des années, avoir des pages de Maus à analyser. Et là, le Spiegelman, ben, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui cherchent quoi acheter comme cadeau de Noël à quelqu'un en BD là, cette année, là, puis qui ne sont pas nécessairement à l'affût des nouveautés ou qu'est-ce qui se passe, ou puis ils veulent un classique, ben, c'est clair que cette BD-là, c'est vraiment une grande et belle BD. Et il réussit, il y a toutes les techniques de Will Eisner là-dedans, là. Au niveau des personnages, au niveau du bien, au niveau du mal, au niveau de faire avancer le récit, le côté autobiographique qu'il y a là-dedans, les réflexions, les rencontres avec son père, la quête, le côté journalistique, c'est vraiment grandiose. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu l'as lu toi aussi, mais quand j'ai relu ça, je me suis dit « Wow, je pense que c'est plus fort » ou « J'ai vu un autre niveau ». Mais c'est d'une puissance extraordinaire. Et là, il ne faut pas oublier qu'il dessine ça, il dessine la Deuxième Guerre mondiale avec les camps de réfugiés, avec des souris, des cochons et des chats, là. C'est pas... c'est les sentiments passent, c'est les expressions passent, et les personnages sont vivants et ils existent. Et jamais, 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 on ne met en doute ce choix-là en lisant cette bande dessinée-là.
Jamais même au on contraire, dit pour... en fait...
Ben non. Puis là, tu dis, wow, c'est vraiment... Je me suis dit, bon, OK, j'ai revécu ça avec un plaisir extraordinaire. Et qui court après les souris?
Les chats.
Et voilà. J'ai reçu en cadeau par la poste Le chat est parmi nous de Guilé.
Le jeu, autre figure classique de la bande dessinée humoristique.
Là, on fait un tour.
Dans un autre registre.
C'est la bête, mais... pas la même bête que le marsupilami. Et on est dans un tout autre... je pense que le chat est aussi un classique. Là. Maintenant, incontournable. Gueluc n'était pas supposé d'en refaire un si vite. Il y avait des dizaines et des dizaines de projets, des projets de télé, des projets de cinéma, des projets de musée, des projets... Bon, COVID oblige, et c'est lui aussi, il s'est assis derrière son bureau. Et a fait un autre chat. Le chat, c'est une BD qui fait rire une fois, qui va pas faire rire l'autre page, qui va te décourager une autre page, mais je pense que c'est un classique qui est très apprécié des lecteurs, et il y a ses fans. Philippe Gueluc a ses fans. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça que je voulais en parler. D'ailleurs, le titre, Le chat est parmi nous, est vraiment son genre d'humour. C'est-à-dire, soit tu trouves ça drôle, soit tu trouves ça plate. Mais si tu trouves ça plate, tu trouves ça drôle tellement que c'est plate. Et puis, il réussit dans cette bande dessinée-là, encore une fois, à amener ses gags, puis à amener son sens de l'humour et son côté réflexion aussi sur la société qui, parfois, est un peu, reste quand même pas mal intéressant. Il y a des niveaux d'humour qui sont assez particuliers, qui sont assez sévères, des regards assez sévères sur la société d'aujourd'hui. C'est pas un humour méchant, et je pense qu'il est rarement méchant, mais c'est quand même, parfois, là, il y a quelques pages qui m'ont fait réfléchir, fait que ça me tentait d'en parler aussi parce que je trouvais que ça faisait un beau lien avec le marsupilami, mes petites souris de mouse.
Oui, puis en fait, ça reste des albums assez attendus, parce que comme tu le dis, effectivement, Gueluc, il y a ses fans, il y a des gens qui attendent les prochains chats. Et la question souvent qu'eux vont se poser, c'est est-ce que le prochain est bon? Est-ce que, tu sais, fait que dans le fond, c'est dans la continuité des précédents, c'est dans la continuité du chat.
Mais il y a toujours quelque chose de bon, mais c'est pas 100% bon. Puis ça touche, mais c'est peut-être ça qui fait que ça touche à tout le monde. Il y a un humour qui va me toucher à moi, puis sur une page ou deux, à mon fils sur une autre page ou deux, mais ça va toucher à tout le monde. Je te montre un gag, parce que nous, on ne le voit pas, mais un gag aussi niaiseux que le port du masque. Là. C'est Zorro qui dit « Faites comme moi, portez le masque. » Zorro a le masque sur ses yeux, bien sûr. Puis le chat à côté a son masque sur le visage, puis il dit une chance qu'il a choisi d'être juste ici au lieu d'être prix Nobel. Et là, tu te dis, bon, OK, mais là, c'est, tu te dis, OK, on parle-tu de Trump là aussi en même temps? Là, là, tu te
Jusqu'où on peut aller, là?
Le côté du gag, et là, tu te dis, OK, c'est plat, du coup, mais là, tu te dis, il y a peut-être une dimension qui est intéressante. Là. Et c'est un peu, il y en a un petit peu plein comme ça, là.
Alors, donc, c'est ton circuit de ce demi-mois de décembre. Donc, un circuit qui nous a entraîné de La Bête au Polar d'Angoulême à la construction de la bande dessinée vers un retour vers des classiques en ouverture vers le chat de Gay-Luc. Et Stéphane, en fait, nous, on se revoit en début d'année prochaine. Et là, j'ai presque envie de dire, tu vas avoir un mois et demi en BD, peut-être consacré à tes coups de cœur, à tes... parce que j'ai l'impression, en fait, je ne sais pas si t'es comme moi, mais pendant le temps des fêtes, je rattrape les lectures que je n'ai pas eu le temps de faire.
Ouais.
Et c'est pour ça que je mets toujours mes top 10 d'année, je les mets en janvier, parce qu'en décembre, je n'ai pas tout lu.
Mais on a du boulot aussi, on a des choses à lire, oui. il faut lire certaines bandes dessinées. Mais vraiment, elle est tellement belle, la vie en BD.
Oh que oui! Salut bien Stéphane!
Salut!
On donne peut-être un peu moins dans l'actualité ici à la vie en BD, mais il y a quand même des nouvelles qui sont incontournables et notamment, bien, puisque j'ai le plaisir d'être membre de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, je me fais toujours un devoir de vous relayer les finalistes, les gagnants, les différentes mises en nomination en lien justement avec les prix offerts par l'AC BD. Je mentionne au passage que vous pouvez les retrouver, cela dit, ainsi que l'ensemble des balados diffusion sur lavieenbd.com, une plateforme qu'on anime de plus en plus. Il y a également notre plateforme YouTube qu'on a ajoutée en complément à notre travail en balado diffusion. Alors, deux prix qui ont été remis, j'en ai mentionné un, mais un peu en à côté la semaine dernière. Alors, je pense qu'il faut le mentionner peut-être un peu plus longuement. Alors, le Grand Prix de la critique AC-BD, au terme d'un troisième tour de vote, l'association avait couronné Podum de Zanzim et Hubert, publié aux éditions Glénat. Donc, c'est le Grand Prix 2021. Donc, un album qui pose la question d'à l'époque de la Renaissance, si une femme pouvait littéralement se glisser dans la peau d'un homme pour expérimenter pleinement la vie au masculin, pour mieux connaître au passage l'homme qu'elle doit épouser, mais qu'est-ce qui se passerait? Alors, on nous dit qu'avec Peau d'homme, le scénariste Hubert, qui est récemment décédé, et le dessinateur Zanzim, échafaudent un conte malin et moderne qui se joue des clichés, qui résonne habilement avec notre siècle, un récit très fluide, une aventure qui se fait à la fois légère et profonde, qui bénéficie d'un trait souple et léger et élégant à la grande lisibilité. Alors, il faut dire que c'est pas le premier album, d'ailleurs, des deux auteurs. Donc, il avait signé Les yeux verts, La sirène des pompiers et Ma vie posthume. Alors, donc, l'album très solide. D'ailleurs, je l'avais mentionné la semaine dernière en chronique. Alors, ben voilà. Donc, il a été choisi dans une sélection là, qui comportait aussi, donc, si on y va avec la liste courte, Anaïs Nin sur la mer des mensonges et Léonie Bischoff, Carbone et silicium de Mathieu Bablet, Longue vie de Stanislas Mousset et Un travail comme un autre d'Alex W. Inker. Alors, évidemment, donc, Peau d'homme d'Hubert et Zanzim. Donc, Grand Prix ACBD 2021. Et la CBD a également remis un autre prix, il s'agit du prix Jeunesse, donc un nouveau prix qui est offert depuis déjà quelques années. Donc, le gagnant pour cette année, donc pour le prix 2020, c'est Le Roi des Oiseaux. Il s'agit d'une fable animalière trépidante menée pied au plancher qui, nous dit-on, mêle éléments du folklore russe et scènes d'action magnifiques. Un récit qui est construit à la manière de poupées gigognes et Matryoshka, superbement dessiné, avec un trait rappelant le pastel. Son point de départ, donc une pomme d'or et discorde qui génère une guerre animalière. On embarque ensuite avec un marchand russe pour un périple vertigineux. Donc, un album qui, dit le jury, très recommandable aux lecteurs jeunes et moins jeunes. Donc, un album qui a été choisi d'abord, en fait, par un jury de présélection, qui a été soumis ensuite au vote de les presque 100 membres de l'association. Les autres titres sélectionnés avaient été Sous les arbres, le tome 2, Le frisson de l'hiver de Dave, Superman écrase le clan de Yang Jin-Luen Yang et Guy Hiru, Les vacances de Nord de Maria Surdukan et Ilaina Surdukan, et Wooly, la guerre des voisins de Benjamin Gérard et Olivier Tichit. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre tout ça en note, eh bien, il y a tout ça et plus sur lavieenbd.com. Eh bien, voilà qui met fin à cette édition de La vie en BD. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, on se met en mode club de lecture et une thématique bien particulière. On va aller parler de sexualité, mais du point de vue masculin, avec une sélection de 4 albums qui l'abordent sous différents aspects. Donc, Pénis de table de Cookie Calcaire, 23 prostituées de Chester Brown, Extase, le premier tome donc de Jean-Louis Tripp et Comédie sentimentale pornographique de Jimmy Beaulieu. Alors, quel regard le club de lecture portera sur ces albums? Ben, vous le saurez la semaine prochaine. D'ici là, c'était Raymond Poirier au micro et ça a été, comme à l'habitude, un grand plaisir d'être avec vous.